Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, en compagnie de mon comparse Mr. Roger, qui est épuisé, il a bossé 5 heures aujourd'hui, il est épuisé.
Une bête, même une bête n'aurait pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui.
C'était dur, hein.
Je sais pas comment vous faites. Vous.
Ça va encore un peu de salive pour discuter avec nous, bande dessinée.
On va essayer.
On va essayer. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour cette 461e émission de la chronique et de la news.
Yep.
Autour donc du 9e art et puis très bientôt du Quai des Bulles. On va y aller.
Avec un jeu pour gagner des places, places à gagner. Alors, est-ce qu'on donne les conditions tout de suite ou
Allez, faisons ça. Tant qu'on en cause.
On vous demandera d'aller à la librairie dont nous tairons le nom, c'est-à-dire...
Mais vous savez très bien laquelle c'est, quand même.
Ouais, rue Saint-Hélier, il n'y en a qu'une dont tait le nom.
Toute neuve.
Ils ont tout refait. On sent qu'il y a des sous.
Belle vitrine, ouais. Vraiment, ils ont élargi tout ça, c'est beaucoup plus éclairé. Ouais.
Et puis, ils ont
les trucs, tu sais, les...
Alors, l'échelle.
L'échelle à coulisses.
Alors, par contre, l'échelle à coulisses... Il n'y a que les super clients.
T'es monté dessus.
Gold, bien sûr.
Et j'y vais quand je voudrais.
J'ai surtout un vendeur qui veut bien me laisser, un libraire qui veut bien me laisser. Une équipe charmante. D'ailleurs, ils ont embauché des jeunes très bien parce que il y a le vieux. Il est bien le vieux. Mais
une valeur sûre.
Voilà. Noté, il dort beaucoup. On le voit rarement. Il est souvent là-haut. En tout cas, il sera sûrement là pour vous accueillir si vous savez répondre à une question. La question, ça sera quelle question ? Alors, tout simplement, peut-être, tiens, de rappeler. Malheureusement, chez Plume et Pinceau. On se fait un point d'honneur à célébrer la mémoire d'auteurs dont on ne connaît pas forcément grand-chose. Enfin, vous, en tout cas, vous le connaissez bien plus que moi. Et qui disparaissent aussi parce que, voilà, c'est aussi le monde de la bande dessinée qui évolue, on va dire, avec des nouveaux auteurs, bien sûr, heureusement. Et voilà. Et donc, il faudra nous donner le nom de la personne à qui on va rendre hommage aujourd'hui, ainsi que, allez, on va dire, citer au moins...
Un de ses personnages phares. Voilà. Ces informations, vous les entendrez dans les chroniques qui vont suivre le morceau de musique. Alors, dans les news qui vont suivre ce morceau de musique, parce qu'après, il y aurait des chroniques, quelques lectures que nous avons faites.
Voilà, Quai des Bulles qui se tiendra, comme c'est peut-être bon de le rappeler, à partir de vendredi prochain.
Autour du 29, ouais.
Voilà, autour du 29. Vendredi, samedi, dimanche.
On y sera. À la buvette.
Et pas que. On sera aussi en salle de presse. On y va aussi pour travailler. Et puis, peut-être qu'on s'y retrouvera. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour vous de nous payer un coup, nous filer un briquet.
Il paraît qu'on va encore voir Monsieur Pochep. Il paraît.
Oh putain, c'est une exclue. Moi, depuis le temps que je rêve.
Surprise.
Ah, puis je rêve de rencontrer Monsieur Pochep parce que je le kiffe trop.
Allez, les White Flag, Electric Band. We'll be right back. Wild Flag Electric Band à la programmation à l'ami Roger. Avant qu'il vous dévoile les noms qui vous permettront de gagner des places dans la librairie dont on taira le nom, mais elle est située rue Saint-Hélier, avant qu'il vous dévoile donc ce qui va vous permettre de gagner les tickets, je vous rappelle, il va falloir donner le nom d'un auteur et de sa créature, une de ses créatures, une de ses créations, dans la dite boutique, et vous gagnerez des entrées pour Quai des Bulles. Avant qu'il vous parle de tout ça, Roger, on va vous faire mariner encore un peu. Tu sais qu'on peut revenir aussi dans la BD après l'avoir quitté pendant un bon moment. Est-ce que tu te souviens de ce dessinateur espagnol, Pepe Moreno ?
Mais oui, vous m'en parliez tout à l'heure, Pepe Moreno, le nom me disait bien quelque chose, mais il a fallu que vous me rafraîchissiez la mémoire.
Ah bah, il faut repenser au magazine spécial USA, par exemple, ouais, Pepe voilà. Moreno, Rebelle, Zeppelin, c'était un dessinateur espagnol vraiment de la période spéciale USA qui nous proposait des univers, moi j'aimais bien Rebelle, c'était une espèce de truc post-apocalyptique, teinté de Mad Max avec des voitures et des jeunes qui refusent de se plier à une dictature dans un monde apocalyptique. C'était vraiment un dessin espagnol en plus. Hein. C'était vraiment, j'aimais beaucoup ça. Et je crois que c'était vous qui me l'avez fait connaître. Je suis surpris que vous me l'avez fait oublier. Ou un de vos anciens techniciens, Schulz, ou un truc comme ça.
Peut-être bien, ça devait être Schulz.
Ouais, c'est lui, je crois, qui m'avait fait découvrir ça. Et c'est vachement bien. Et j'en parlais en plus il n'y a pas longtemps. Et en fait, le type avait quitté la bande dessinée.
C'est pas Schulz, c'est Helmut.
Helmut, exact. Il avait quitté la BD et était parti s'installer aux États-Unis, où il s'était lancé plutôt dans le digital et le jeu vidéo, l'animation, etc. Il pensait la BD un peu morte. Et en fait, il s'aperçoit qu'il a, une base fan, comme on dit. Il a des fans en Europe, alors que, par exemple, en France, il n'y a plus rien d'édité de lui, il a disparu des catalogues. Il s'est aperçu que finalement il était très apprécié, qu'il était une vraie référence, et presque qu'il y avait on attendait son retour, on espérait son retour, et du coup il a envie de reprendre le crayon. Et effectivement, j'ai vu un article où on voyait quelques crayonnés, peut-être une suite de Rebelle, puisqu'apparemment il y avait quand même un projet de suite de Rebelle. Donc tu vois, certains disparaissent, mais d'autres reviennent dans les anciens. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Le retour de Pepe Moreno.
Eh ben voilà.
J'espère que ça va déboucher sur une vraie production.
Ben oui. Par contre, en ce qui me concerne, moi, c'est bien plus triste, puisque Monsieur Keith Giffen,
vous dites ?
Alors moi, je dirais, vous dites Giffen, sans doute.
Giffen, c'est Giffen, pas mal. Okay, Giffen. Ouais. Non, mais c'est pour nos auditeurs. Giffen.
Ah oui. Keith Giffen, qu'est-ce qu'il est malin.
Clean d'œil.
Utile quand même d'avoir quelqu'un qui a un cerveau quand on travaille à deux. Merci.
Vous avez travaillé 5 heures aujourd'hui.
Oh, ouais, je suis une bête écorchée. Donc Keith Giffen nous a quittés et on le connaît, enfin moi je le connaissais surtout parce que c'est pas trop mon domaine, mais c'est plus le vôtre, mon bon Erwan, c'est l'inventeur de Rocket Raccoon.
De qui vous dites ?
Rocket Raccoon. Rocket Raccoon de la série Les Gardiens de la Galaxie.
Mm-mm.
Voilà.
Exactement, et qui est la figure centrale du dernier Gardien de la Galaxie qui est sorti au cinéma, où il a vraiment un rôle hyper important. C'est un personnage très réussi.
Est-ce qu'il travaillait sur le scénario des Gardiens de la Galaxie en film ?
Alors avec les Américains, c'est toujours compliqué. Ça, je sais pas, parce que sont-ils vraiment propriétaires de leur personnage ? Je ne crois pas.
Ben oui, c'est tout pourri.
Donc, je suis pas sûr qu'il ait
un droit de regard sur le scénario.
Ouais. Enfin, je suis pas sûr que Ditko, par exemple, ait un droit de regard sur Spider-Man. C'est lui qui l'a dessiné, mais je pense que ça. C'est Stan Lee, Marvel qui devait avoir récupéré les droits. Non, je pense que. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Non, mais au moins, il est le père spirituel.
Voilà, et il n'a pas fait que ça, hein, puisque...
Comment il s'appelle déjà ?
Il s'appelle Keith Giffen. Keith Giffen.
Rocket Raccoon.
Imaginé plusieurs personnages de comics. Mm-hmm. C'est lui qui avait écrit et dessiné Legion of Super Heroes chez DC Comics dans les années 80 et 90, avant de créer le mercenaire extraterrestre.
Mercenaire extraterrestre.
Un loup en espagnol.
Oui. Oh, c'est un truc. Lobo, un truc
pour
complètement déjanté.
Omega Men.
Ah oui, complètement déjanté, ça. Ça, c'est très bien. Voilà. Ah, je savais pas que c'était lui.
Eh ouais.
J'avais vu passer l'info aussi sur Rocket Raccoon et Orphelin, enfin, tu vois, ce genre de truc. Lobo aussi.
Ouais.
Ah oui, c'est triste.
Bah voilà. Non,
merci Roger, bien. Super l'ambiance.
Ah bah attendez, je vais encore vous la plomber davantage. Alors, quoi que oui et non. Vous savez, à chaque fois, je vous dis, je suis très circonspect quand il y a des adaptations de bandes dessinées. Et il se trouve, surtout quand il s'agit de personnages emblématiques et hyper connus, comme Gaston Lagaffe, par exemple, vous voyez, qui s'est révélé, il faut bien le dire, une grosse bouse. Mais ça, dès le début, on aurait pu s'en douter. Par contre, un film événement dont nous avons reçu dans ce studio même, l'autrice à l'origine de tout ce...
Algue verte.
Inès Leroux. Et ce film-là a déjà été vu, alors qu'il est sorti en juillet 2023, par plus de 400 000 spectateurs. Et c'est pas vraiment un film comme à l'origine qu'on aurait pu penser qu'il aurait intéressé tant de monde, comme la BD. Hein, la BD, elle n'arrête pas d'être tirée. Et après, les députés, les sénateurs, les 175 membres du Conseil économique, social et environnemental, représentant la société civile, patronat, syndicats et associations, assisteront à une projection du film Les Algues Vertes le 24 octobre 2023. Vous voyez un peu le boulot.
Ouais.
Et alors on peut se dire, c'est bien, mais c'est pas. C'est sans oublier les Côtes d'Armor. Parce qu'effectivement, c'est dans les Côtes d'Armor que ça se joue, les Algues Vertes. Et le conseil municipal...
Touchez pas à nos cochons.
Voilà, c'est un peu ça. On est chez nous, laissez-nous crever dans nos algues vertes. Le conseil municipal d'Illion était divisé, mais s'est prononcé au bulletin secret en faveur d'une action juridique contre le film inspiré de la bande dessinée d'Inès Leroux. La commune d'Illion s'est prononcée donc en faveur de ces poursuites parce que le maire s'estime être,
diffamé.
Diffamé.
Tout salit notre mémoire et notre commune.
Voilà. Ça a gêné, quoi.
Ouais, c'est de l'écolo-terrorisme, ça.
Et il faut quand même rappeler que déjà, lors du tournage, il y avait des communes qui avaient purement et simplement interdit leur commune pour tourner. Mmh. Et lors du tournage, le réalisateur Pierre Jolivet a parfois dû ruser pour obtenir des images. Pour filmer les ramasseurs d'algues, il faisait semblant de se concentrer sur sa fille de 24 ans qui prenait des poses de mannequin. Mais à un moment donné, ils ont dû plier bagage après avoir été repérés. Quoi. Carrément, c'est incroyable. Alors, on dit de la Corse, mais alors la mafia du cochon, c'est quand même pas mal. Et alors, à bulletin secret.
Vous n'aimez pas la région, vous n'aimez pas la Bretagne.
C'est pas que j'aime pas la Bretagne.
Vous n'avez pas de Saint-Brieuc, vous ?
Justement, et Lyon, je connais. J'ai été à la pêche sur pas mal de sites.
Vous pouvez plus retourner là-bas, hein, je vous le dis maintenant.
Déjà, j'y retournais plus, en tout cas à la pêche, parce qu'il n'y avait plus rien, puisque dans sa BD, Inès Leroux raconte très bien comment des sites sont devenus totalement morts.
Il faut reconnaître qu'Illion, hein, je suis désolé, mais...
Ah, c'est mort. Ah, et il faut quand même rappeler
que... C'est vert.
Ils votent pour faire chier, le réalisateur, Pierre Jolivet, et par ricochet, Inès Leroux, bien sûr, mais en même temps, tant pis, on va crever avec nos algues vertes, mais c'est tant pire.
Nous qui l'a fait.
Ouais, c'est nous qui l'avons fait. L'être humain est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Est-ce que on se fait une pause ou quoi?
Comme vous voulez, moi. Décidément. J'ai pas vu, mais vous avez sorti vos dossiers.
Yep.
Vous êtes intéressable. Ouais, on va se faire une petite pause musicale. Allez, The Lindas, Growing Up. Il faut grandir.
We'll always be.
The Linda Lindas, Growing Up, une tuerie bébrunée à mon avis aux Pixies.
Très bien.
Il paraît que vous avez encore des dossiers.
Un truc qui m'a laissé un goût amer, bien déçu. Est-ce que vous connaissez le principe de l'échelle de Peters, mon bon Erwan ?
Non.
En fait, c'est qu'on arrive tous à un moment donné à notre degré d'incompétence. Ainsi, nous, en tant qu'on n'a pas dépassé le stade d'animateur radio dans une obscure radio libre, bien, c'est parce que ça y est, vu l'âge.
On est au max, là.
On est au top. D'ailleurs, si vous avez
un. On est capable de bouffer 5 heures par jour, on peut faire.
Parce que, si. Alors, il se pourrait que par piston ou par la chance, allez savoir, ou parce qu'un producteur d'une vraie chaîne de télé ou de radio nationale est ivre-mort qui nous embauche, nous risquerions d'atteindre le sommet de notre échelle de Peters, et là, ça va être beaucoup moins drôle, parce que là, ça va, on fait pas beaucoup de dégâts, mais sur une plus grande échelle, ça peut être un peu de dommage. Et c'est ce qui, je crois, vient d'arriver à Maya Mazorette. Est-ce que vous connaissez Maya Mazorette ?
Une dame qui nous parle beaucoup de sexualité. Alors, qui s'intéresse beaucoup à ça.
Ouais,
avec des cheveux très colorés.
Ouais, ces derniers temps, elle est dans l'émission Quotidien.
Ouais, et puis elle est sur France Inter aussi.
Ouais, mais avant, moi, je la connaissais parce que elle a scénarisé pas mal de bouquins, notamment elle a travaillé avec Édouard Depin pour Mes péchés mignons et un qui m'avait fait mourir de rire, Sale bête de Krasinski, avec Krasinski au dessin.
Oui, oui, oui. Oui, je me souviens
Bestiole, je ne sais, Sale bête, ça s'appelait. Et c'était absolument génial.
Ah, j'avais jamais fait le lien que c'était elle.
Eh ben, c'était elle. Et et puis voilà, Tipa que Charline Vandenecker et comme vous le savez, on lui a dit, non, tous les jours, c'est trop. Donc, le dimanche, entre minuit et 2h du matin, ça serait mieux, genre. Et donc, ils les ont un petit peu poussés vers la sortie, d'accord ? Et qui a pris sa place ? Maya Mazorette. Ça fait bizarre, d'autant qu'en plus, un truc qui m'a foutu mal à l'aise, c'est qu'elle a interviewé la bande à Charline Vandenecker, alors qu'elle savait très bien qu'elle allait être embauchée, mais Charline Vandenecker, elle, apparemment, ne savait pas qu'elle allait être virée.
Oh, c'est des embrouilles de couloir.
Alors, embrouilles de couloir, bonsoir. Sauf que là, elle vient de plonger de encore plus dans leur émission, une émission très parisienne, un peu très, très dans l'entre-soi.
C'est un trio féminin aux manettes, ouais.
Ouais, il y a une critique dans Télérama ou dans Le Monde.
Jamais vraiment écouté.
Qui les écorche un peu en disant que ça fait un peu très parisien. Et quand c'est Le Monde qui vous dit que c'est très parisien, ça fait bizarre. Et il y a une espèce de rubrique à la con au cours de laquelle Maya Mazorette est censée torturer une ou un invité en lui posant des questions déstabilisantes. Sauf que cette fois-ci, elle recevait Thomas Braille. Est-ce que vous connaissez Thomas Braille ?
Ah non, désolé.
C'est un héros, monsieur. C'est Thomas Braille, c'est un héros du verre qui lutte en ce moment contre
l'autoroute. Dans les arbres.
Ouais, A69.
C'est voilà, ça y est. J'ai cherché.
Qui a accepté, Dieu sait pourquoi, que ça serve d'exemple à tout le monde. Ça ne sert à rien de tendre la perche à ce genre d'émission, finalement, parce que à travers cet jeu de massacre, nombre d'auditeurs commençaient à se demander si, au-delà du jeu, Maya Mazorette ne pensait pas réellement ce qu'elle disait. Oh, et face à un mec qui était en pleine grève de la faim, vous appelez les écureuils, c'est totalement ridicule. Finalement, on parle beaucoup de vous plus que de la cause, là, à tel point que vous n'avez pas réussi à rassembler. Et c'est quand même un monsieur qui est pratiquement tombé de son arbre après cette émission, entamer une grève, après la grève de la faim, et de refuser de boire de l'eau. Et ça a fait pas mal jaser, au point que même Monsieur De Chavannes, ça vous dit quelque chose, Monsieur De Chavannes ?
L'animateur télé.
Ouais, qui quelque part est un petit peu un des premiers à avoir lancé une espèce d'émission de merde, de télé-poubelle, je dirais. Et ce monsieur-là a écouté l'émission et il a déclaré qu'il était vraiment peiné pour ce militant de la cause des arbres, et qu'il le trouvait ça carrément indécent. Et il n'y a pas que lui qui le dit, et il y a énormément, énormément d'échos. Donc Maya Mazorette aurait-elle effectivement atteint son sommet de l'échelle, comme nous ? Ben oui, Maya, tu vois, ça finit par arriver. C'est comme ça.
On ne te jugera pas nous-mêmes.
Nous-mêmes, et c'est bien de le dire quand même. Initial A, ou alors initial Hey. Vous savez ce que c'est, initiale A?
À chaque fois, vous me posez des questions. En fait, je dois deviner ce que vous avez trouvé dans le monde de la BD.
Yes, j'ai l'impression. Yes, c'est exactement ça.
J'ai l'impression. Tu vires Maya Mazorette, tu poses des questions intrusives et à charge.
Non, je vous avais prévenu pour Case Griffin de
Rocket Raccoon. Ouais, Case Griffin, ouais. C'est ça, Case Griffin.
Alors, initiale A, c'est le premier ouvrage réalisé par M. Thierry Murat, réalisé entièrement par un IA.
Non, ça, j'ai pas entendu la nouvelle.
Bah ouais, intelligence artificielle. Et c'est assez bizarre parce que ce monsieur-là a
un album de BD.
Ouais, il publie des BD depuis 2004. Il a travaillé avec Corbeyran, travaillé pas mal avec Delcourt.
Le bonhomme est dessinateur, c'est une IA qui a scénarisé, c'est ça l'idée?
Bah, apparemment, l'IA aurait tout fait, quoi. Il aurait posé des questions. Alors, j'ai jamais bossé. Enfin, ça me paraît totalement incongru, moi. J'ai pas non plus le Allo Google chez moi pour me dire à quelle heure, combien doit durer la cuisson de mes œufs. Vous voyez le genre? Je trouve ça. Et une IA, ça me fait un peu flippo. Vous voyez le genre? Et du coup, il a voulu normalement le contrat, si j'ai bien compris, au conditionnel. Il était prévu de publier ça chez Delcourt. Et quand Delcourt a vu la nature du projet, ils n'ont pas voulu. Donc, il vient de la publier à cause d'auteur. Parce qu'effectivement, ce projet-là fait jaser dans la profession. Hein. Et comment...
C'est sûr que ça a l'air complètement incongru quand tu vois, en plus, par exemple, tout le cinéma américain qui a bien senti que ça allait bouleverser tout l'art scénaristique et qui se sont mis en grève. Et nous, on l'accepterait en la BD, en fait. On serait plus cons. Non, ça va bouffer de l'emploi, c'est évident. Puis ça va tirer de la créativité. Je pense que l'IA, elle a dû faire un truc, comment dirais-je, bankable. Enfin, tu vois, on rentre des paramètres, qu'est-ce qui plaît au public, tac, 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 et tu fais un
scénario. Elle ne peut recracher que ce qu'elle a dans sa mémoire.
Voilà, elle ne sera pas capable, enfin, je ne sais pas, un jour peut-être sera-t-elle capable d'innover, mais c'est vrai que ça doit être un bon tâcheron. Donc pour la BD un peu mainstream, ça doit être très bien pour faire du blockbuster. Je pense que c'est faisable.
Après, comment...
Mais ça veut dire plein de scénaristes qui disparaissent, du coup.
Ou enfin, en tout cas, ce que je trouve, par contre, parce que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que au moins, il le dit, quoi. Voilà, c'est la première BD, c'est pas moi qui l'a le scénar. Au moins, il le dit, quoi.
Ouais, ouais.
Vous voyez l'intérêt de la chose. Après, il se défend également en disant qu'il porte pas la responsabilité de l'invention de cette machine, ce qui est vrai. Il est juste un artiste libre qui se permet de porter un regard sur le monde en ajoutant cet outil. Je sais pas, j'ai du mal à être dans la mesure où on sait d'emblée...
Je suis pas chaud emballé.
Ah bah non, moi non plus. Moi non plus, je vous dire. Mais est-ce qu'effectivement on peut lui interdire de le faire? Je vois pas...
Non. Bah, c'est comme si on interdisait la variété, quoi.
Ah, et on dit que je suis mauvais, après.
Non. pas du tout de la variété. Interlude musicale et ensuite on se lance dans des chroniques.
Ouais.
Bah, tu vois, il y a une BD dont j'ai vachement envie de te parler. Et tu vois, je suis pas sûr qu'une IA aurait eu toute l'intelligence qu'il y a dans cette bande dessinée. Oh, teaser. Allez, interlude musicale. We'll be right back. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux.
Oui, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Pour les sourds, c'est très très bien.
Je voulais vraiment vous chroniquer cet album parce qu'en fait, il date un tout petit peu. Je crois qu'il date de plutôt du début de l'année 2023. C'est grâce à la bibliothèque que j'ai réussi enfin à mettre la main dessus. Je sais pas, je l'avais vu. Il a une couverture vraiment très très réussie. Je l'avais repéré et puis je sais pas pourquoi les vacances sont arrivées. Tchic tchac, je l'ai pas acheté et je regrette bien. Parce que c'est une tuerie. Après, heureusement, il y a les bibliothèques municipales pour se rattraper. C'est Néo Forest. Vraiment, Monsieur Duval et Monsieur Scofoni nous livrent un premier épisode, c'est un diptyque, qui nous fait pénétrer dans un univers. Mais vraiment, une IA n'aurait pas pu inventer ça, quoi. C'est vraiment un univers. Non, vraiment, parce que
vous êtes contre le progrès.
Non, ils ont inventé le néo-féodalisme, c'est-à-dire du féodalisme et dans un monde post-apocalyptique. Vraiment, c'est une nouvelle porte, je pense, dans la science-fiction. Alors, c'est Fred Duval qui est au scénario, on le connaît pour Travis, Carmen McCallum, Hauteville House. C'est un type qui sait raconter des histoires. Il était très... il a vraiment beaucoup cartonné dans la série B chez Delcourt. Et puis, il était un peu perdu de vue. Il s'était perdu un peu dans tous les trucs historiques que fait Delcourt, tu sais. Il était une fois un homme, etc., etc. C'était un peu dilué là-dedans. Et là, il revient en force dans l'ASF, ce qui par quoi je l'avais moi connu. Et il a trouvé en Philippe Scofoni un super dessinateur et un super coloriste, en fait. Au niveau du dessin, il me fait penser à Arnaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, et il y en a à voir avec... L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un, il l'appelait Jeannot. Mais c'est Jeannot qui me dit.
Arnaud, non, vous aviez raison, vous m'avez rappelé, je partais sur une fausse piste. Effectivement, dessinateur de kids. Vraiment, j'aime beaucoup le dessin. Et c'est un super coloriste aussi. Il est très fort sur les sépias un peu verts parce qu'on va rentrer dans un monde vraiment forestier. En fait, l'idée... C'est qu'on est en France, dans un monde post-apocalyptique où une nouvelle féodalité s'est créée en fait, et la France est devenue vraiment une terre forestière. Et donc on y vit un peu comme si on était au Moyen-Âge. Par exemple, un des personnages principaux, le comte Cocteau, qui donne plus ou moins le premier épisode, puisque le premier épisode s'appelle Cocteau Citadelle. Le prince Cocteau, il fait comme des tournois. Alors donc il a une lance, une armure, etc. Mais en fait, il est sur un vélo. Sur un vélo de cross, et en fait ils se lancent chacun d'un côté d'une colline et ils doivent se percuter. Tu vois, il y a des choses très médiévales. C'est des tournois organisés pour des maîtres. Ils sont des propriétaires féodaux, quoi. Donc ils ont des serviteurs, ils ont des fermiers, ils vivent dans un château. Donc t'as un monde très médiéval mais en même temps hyper moderne. Par exemple le comte Cocteau, lui, c'est un noble fortuné. Et il a sa fortune est basée sur des manipulations génétiques, quoi. Et là, il se blesse lors d'une joute, donc pratiquée à vélo, et il doit faire l'objet d'une opération et qui va le mettre un peu en sommeil pendant un petit temps. Et il voudrait filer à la princesse Blanche, à sa fille, l'intérim, quoi, tu sais, la faire régente, parce que il a un frère, enfin tu sais, des neveux, il représente quelque chose, quoi. Le poste serait presque à prendre. Hein. Seulement la princesse Blanche, elle est pas très intéressée pour le pouvoir. Elle est partie randonner en forêt pour 3 jours avec 2 amis. Elle est injoignable et donc le comte va devoir finalement passer le flambeau à son frère et tu t'aperçois que lui, il a des plans, quoi. Il a des plans. Donc tu vois, t'as une espèce d'intrigue de cour, mais dans un monde donc qui va associer ça à de la technologie. Par exemple,
ils ont de l'énergie.
Princesse Blanche. Ouais, ils ont de l'électricité et tout. Elle utilise un portable. Elle paye par des virements bancaires et tout ça. T'as aussi tout un tas de technologies comme ça qui restent là. Ça te fait vraiment un univers très particulier. Et donc, on va plonger dans la forêt où dedans, par exemple, il y a des espèces d'hommes cochons qui sont des survivants de manipulations génétiques pratiquées sur des porcs, bien des années avant.
C'est votre histoire.
Ouais, c'est vachement bien. Et il y a vraiment un super suspense et c'est une BD qui est avec des couleurs forestières, quoi. C'est vraiment super réussi. Et j'ai hâte de lire la suite et je suis content finalement d'aller à la bibliothèque municipale. Il faut reconnaître que ces dames ont toujours accompagné plus mes pinceaux depuis le début. Parce que sans elles, j'aurais pas découvert donc cette BD Néo Forest, tome O, Cocteau Citadelle de Duval et Scofoni. Et c'est paru aux éditions Dargaud.
Yes.
À vous, mon bon Roger.
Eh ben, moi, ça sera pas de la science-fiction. Je vais tout à fait rebondir avec de l'histoire. c'est pas tout 9-9-9 non plus. Ça s'appelle Un général des généraux que nous devons à messieurs Book et Junker aux éditions du Lombard.
Oh, ça date d'avant les vacances, ça aussi.
Yes, tout à fait. En fait, c'est un ouvrage que j'ai offert à un vieil ami. Et comment, voilà. Et c'était son, voilà. Et puis du coup, j'y offre ce bouquin. Je ne l'avais jamais lu et il me l'a prêté l'autre jour. Donc, je le découvre. Et d'autant que j'avais suivi un petit peu ça parce que j'en avais déjà parlé lors d'une des brèves. En fait, Un général des généraux, eh bien, cette BD narre les événements aux alentours du 13 mai 58, à savoir le, comment,
le putsch
d'Alger avec les généraux Salan, comment dirais-je, Massu et toute une bande de bras cassés locaux. Et l'arrivée au final de Charles de Gaulle qui finit par dire « Ok, je veux bien vous sortir de la mouise, mais en échange, ça sera une nouvelle constitution avec un pouvoir exécutif plus fort, un pouvoir législatif plus restreint. » Et voilà comment meurt une, on va dire, une démocratie un petit peu plus active au profit d'un régime certes plus stable, mais dont on peut voir les défauts tous les jours à travers le 49-3. On en est à 13, je crois, depuis ou avant-hier. Voilà, c'est ça aussi les conséquences de Un général des généraux. Et c'est un portrait, effectivement, c'est pas moi qui le dis, c'est comment le service des armées françaises qui, tous les ans, décerne un prix d'histoire. Hein, les militaires aiment la BD, puisque le ministère des armées décernait cette année son troisième prix des galons de la BD, doté de 6 000 euros, qui récompense des ouvrages consacrés aux faits militaires, quel que soit leur angle. Et en matière d'angle, effectivement, ils n'ont pas été déçus, puisque c'est une histoire de dingue. Alors, effectivement, pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de l'époque, allez, un petit coup de Wikipédia, je dirais, c'est presque nécessaire. C'est-à-dire, hein, puis vous replongez.
Il y a de la précision historique, vous voulez dire?
Ah ben, c'est-à-dire que, ben oui et non, mais la précision historique, mais vous êtes au plus près de l'action, c'est-à-dire vous êtes à Alger et à Paris, en fait. On n'arrête pas de faire des va-et-vient entre Alger et Paris.
Logique, logique.
Et on a la chronologie, de tout ça au fur et à mesure que les événements dégénèrent. Voilà. Ouais. Donc pour résumer l'histoire, on est en 58. La 4e République est en pleine crise parce qu'elle n'arrive pas à gérer notamment la guerre, les problèmes de la guerre d'Algérie. Les gouvernements succèdent. La durée d'un gouvernement moyenne, ça doit être à la période arrivée en 58, ça doit être 2 ou 3 mois. C'est un peu le chaos. À l'Assemblée nationale, les députés passent leur temps à s'incendier et en venir aux mains. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand on dit aujourd'hui, oui, la France insoumise, c'est des voyous. Les images que nous montre Book dans cette BD-là, ils en venaient aux mains. C'était carrément autre chose. Ah, une autre époque avec comment donc c'est le bordel. Et en Algérie, lorsque comment un espèce de comité de salut public qui s'était autonomé le comité de salut public comment apprend que à l'Assemblée nationale on va investir Pierre Pflimlin qui aux yeux Pflimlin, mais j'y peux rien, c'est PF son nom. Ah, si c'était appelé Pflimlin, peut-être que ça serait mieux passé. Ou Perlin-Pimpin, j'en sais rien. Peut-être qu'effectivement, il n'y aurait pas eu le putsch. Mais il s'appelle Pflimlin. Et il n'a pas vraiment d'autorité. Il est balayé à droite, à gauche. On a du mal à comprendre comment il va y réagir. Il va envoyer un émissaire pour discuter avec le bordel, avec le comité de salut public à Alger. Et à Alger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Ainsi, ils avaient également arrêté le préfet. Le préfet de la région d'Alger avait été arrêté, enfermé par le comité de salut public, c'est le chaos le plus total. Et on voit des personnages emblématiques. Donc le général Massu. Général Massu, c'est celui que l'on voit principalement dans la bataille d'Alger, le film sur la bataille d'Alger, qui va mettre fin à une période d'attentats dans la casbah d'Alger. Le souci, c'est que pour arriver à ce résultat, on a laissé les clés sur la porte de la casbah au général Massu, parachutiste, et qui va, et le fait est reconnu historiquement, se livrer ouvertement à la torture. Disparition, etc., exécution sommaire. Effectivement, ce qu'on va appeler la bataille d'Alger met fin aux attentats du FLN dans la casbah, mais c'est au prix quand même d'entorses, comment dirais-je, définitives sur les droits de l'homme. Et c'est le bordel, et le côté génial de cette histoire-là, c'est de voir en contrepoint l'arrivée d'un homme. Parce qu'effectivement, la BD, elle commence pas à Alger, elle commence à Colombey, les deux églises. Et on voit le général de Gaulle, himself, en peignoir, les bras écartés. On croit qu'il dit bonjour ou qu'il s'entraîne pour un discours. Nope, c'est un petit couturier qui est en train de lui mesurer son petit costard. Parce qu'il sait, c'est de Gaulle quand même, il sait que là maintenant, la partie, et ça va être à lui de jouer la partie. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que assez rapidement, sous la pression du comité de salut public, les généraux vont essayer de fomenter un coup d'État militaire et afin de mettre au pas l'Assemblée nationale. Et il va y avoir des interventions de l'armée, hein, en Corse notamment. La Corse va être envahie ou libérée, suivant de quel côté de l'histoire on se passe, par les insurgés pro-Algérie française. Et les généraux menacent effectivement d'envoyer des parachutistes à Paris, etc. Donc le chaos, peut-être que le coup d'État aurait échoué, mais on allait véritablement vers une grosse période de chaos. Et c'est là où on voit la subtilité du bonhomme qu'on voit en robe de chambre à la première page, c'est qu'il a des hommes à lui, en fait, à Alger, notamment un bonhomme qui s'appelle Soustelle, Jacques Soustelle, qui finira dans les fourgons de l'OAS et qui finira condamné à mort par contumace, hein, quand même, Jacques Soustelle, hein, quand même, faut le savoir. Mais à l'époque, il est gaulliste. Et c'est eux qui vont, lui et un autre bonhomme, qui vont vraiment influencer le comité de salut public, faire pression sur les généraux. On voit le portrait de Salon, on découvre le général Salon. Vous savez qu'il avait gardé sa garde turquinoise.
Ouais, le chinois, on le surnommait.
Ouais, et pas que parce qu'il avait gardé sa milice, il avait des espèces de petits gardes à lui qui étaient tous turquinois. Et il avait gardé, ce qu'on nous rappelle dans cet ouvrage-là, qu'un goût certain pour l'opium, d'ailleurs. Et c'est ce que dit De Gaulle à la fin de l'ouvrage, il y a des petites notes historique où De Gaulle dit, de toute façon, dès que je suis au pouvoir, ça l'enle drogué, je le vire. Point.
Ouais, il avait fait ses armes en Indochine et puis son fils y était enterré. Je crois que son fils était mort pendant la guerre d'Indochine. Donc il était effectivement très, très déjà impliqué dans les guerres coloniales et puis très, très amoureux effectivement du Vietnam.
Voilà.
Et de ses fruits défendus.
Et à propos des généraux. Donc,
mais c'est humoristique ou c'est historique?
Ce qui est humoristique.
Parce que c'est book, quoi, en fait, tu vois, ça
alors,
me surprend.
Alors, il y a le dessin, naturellement, vous avez raison de le rappeler. Il y a le dessin de book qui maîtrise à merveille, qui croque à merveille les personnages. Ça donne un dynamisme incroyable à une bande dessinée dans laquelle, effectivement, qui se passe, on pourrait être dans une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, hein, avec une scène à Alger. Hein, au bâtiment général d'Alger avec le fameux balcon là, au commissariat, on sait pas le commissariat de police, mais le symbole du pouvoir colonial et Matignon en fait, et puis aussi de temps en temps la chambre des députés où on voit les députés de gauche qui chantent l'international, communistes qui chantent l'international, les autres chantent la Marseillaise et ils en viennent aux mains, et le président de l'Assemblée nationale qui est là, je suspends la séance, c'est le chaos le plus total. Et en filigrane on voit De Gaulle qui se presse pas, qui mange ses petits biscuits et qui dit à un moment donné, parce que le bordel commence le 13 mai, et De Gaulle, alors qu'on balance son nom de plus en plus, dit « J'attendrai le 19 mai pour parler. » Et ils disent « Pourquoi ?» C'est tout. « J'attendrai le 19 mai. »«
J'attendrai. »
Et il a su se faire attendre. Et quand De Gaulle va finalement arriver à Paris pour faire son discours, et c'est là où il va tenir une conférence de presse avec cette célèbre phrase où il dit « Est-ce que j'ai attendu 70 ans pour devenir dictateur ?» Vous vous rappelez de cette phrase-là?
Ouais.
Et c'est assez incroyable. On retrouve tous vos bouquins d'histoire, bonbon Erwan. C'est, et l'humour, effectivement, pour revenir dans l'humour, c'est le personnage de alors, Massu est cinglé. Massu, et d'ailleurs, De Gaulle disait, à propos de Massu, il dit, c'est un brave gars, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Oh. En clair, il n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. Et quant à Salon, De Gaulle le détestait copieusement, puisqu'il, l'opiomane, je le vire dès que j'arrive.
Ah,
dès que je serai au pouvoir. Et il l'a viré, effectivement. Et c'est un ouvrage. Donc, alors, je continue cette histoire. Ils ont un prix. Donc, voilà, il faudra à tout prix que vous découvriez un général des généraux. Ça vous fera refuser vos épreuves d'histoire du bac. Et c'est quand même... on se fend la goule. Mais en même temps, ça rassure pas, parce que on voit en même temps comment un pouvoir civil peut être totalement dépassé. Tout ça parce qu'il s'appelait Pfmelin. Ouais, parce qu'il avait un nom pour le difficile à dire. Enfin, ça, c'est ma version des choses. Peut-être que c'est plus compliqué
c'est
que ça.
C'est votre version des choses.
Mais je termine en disant qu'effectivement, donc, le prix, ils le reçoivent. Le problème, c'est que si M. Bouc a bien accepté sa part du prix, M. Juncker, lui, le scénariste, a dit nope. Mon prix.
J'avais entendu ça.
Mon prix, bah ouais, je sais plus mes pinceaux, si vous écoutez. J'en avais parlé.
C'est pas mal cette émission, ouais.
Il sera reversé aux victimes des manifestations de Sainte-Soline. Lorsque le ministère des anciens combattants apprend les déclarations de M. Juncker, le ministère fait pression sur l'armée pour que, puisque Juncker veut pas son prix, eh ben il n'aura rien, Tintin. Sauf que quand même, tout ça, c'est pas très légal. Ou alors l'armée lui a fait savoir que c'était leur prix et que puis c'est tout. Et donc l'armée a fini par verser. Mais alors ils vont pas le verser directement à Juncker, ils vont le verser d'abord aux éditions du Lombard, qui est à charge à eux de donner à M. Juncker. Comme quoi ?
Eh ben oui, embrouille chez les généraux.
Ouais. Un général des généraux, Bouc et Juncker, l'ouvrage de Noël, tiens, pour votre tonton facho.
Interlude musical, The Living Dead, avec Danny B. Harvey. contrebasse comme ça. Ça s'appelle du rockabilly, non, c'est ça.
Voilà. Eh ouais.
Living Dead Boogie par The Living Dead.
Hey, vous avez vu un peu. Moi, je trouve ça les morts vivants.
Ouais, c'était très bien.
Et en plus, je vous ferai dire que c'est un peu Halloween.
C'est tout à fait, bravo, voilà. Excellent choix. Vous qui aimez l'histoire, vous avez peut-être entendu parler des Piliers de la Terre, une série de Ken Follett, un auteur britannique qui avait fait paraître ça dans les années 89, qui avait eu un succès énorme. C'était vraiment un truc à lire, effectivement.
Est-ce
si
qu'il
vous
y avait des images
mot.
À l'époque?
Non, c'était du pur roman, mon ami. C'était vraiment un roman qui nous replongeait au temps des bâtisseurs de cathédrales, en fait, en Angleterre, au XIIe siècle. On a un royaume qui est un peu en perdition. Il y a de la guerre, il y a de la famine. Et puis, on va suivre tout un tas de personnages qui sont réunis autour de l'idée de bâtir une cathédrale. Notamment un des personnages principaux, je m'en souviens très bien, puis on le retrouve dans ce premier tome là qui vient de paraître, dans l'adaptation BD offerte par Didier Alcante et Steven Dupré, je vous en reparle dans quelques instants. Tu retrouves notamment au tome le maître charpentier, je me souviens très bien de lui au début, parce qu'il est une des premières scènes, c'est très très vite, il est obligé d'abandonner sa femme mort qui est morte en couche et le bébé né parce que qui est lui toujours vivant parce que ils ont plus rien quoi, ils ont plus rien, il est au chômage et c'était terrible cette scène là dans la neige, etc. Bon, l'enfant sera sauvé, rassurez-vous, Roger, je vois déjà une larme poindre au coin de votre œil. Et il va se retrouver sur un chantier, on va dire, avec Pilate, un des autres personnages importants, le prieur Philippe, et il y a un projet de construction de cathédrale. Et tu découvres la vie médiévale et puis aussi, notamment, la vie religieuse dans ces temps du 12e siècle, quoi. Ouais, c'est vachement bien. C'est très historique et puis ça avait l'air très très réaliste.
C'est une question, Fune. Justement, est-ce que c'est pas seulement au niveau du ton, mais vous la voyez, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'idée de se dire sous l'Antiquité c'était mieux, les Romains portaient.
Non, c'est les temps sont durs quoi. D'ailleurs c'est assez marrant parce que Glénat fait ça avec Robert Laffont. Glénat me l'a envoyé en truc de presse et puis il y a une fiche et les thèmes c'est quand même religion, amour, saga médiévale, l'Angleterre au XIIe siècle, intrigue, lutte de pouvoir, bataille, meurtre, premier bâtisseur de cathédrale. Tu vois l'ambiance, c'est un petit peu... Mais c'est vachement bien.
Et ça reprend le titre du roman.
Ouais, ça reprend le roman, ça va être 6 épisodes. La BD est assez épaisse, 104 pages si j'ai regardé, je l'ai trouvée assez épaisse, mais c'est bien, là c'est le premier épisode, Le Rêveur des Cathédrales. C'est Didier Alcante, au scénario, c'est lui qui avait fait La Bombe. Et je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Moi, je retrouve il y a des bonnes idées scénaristiques et tout en restant fidèle à l'adaptation. D'ailleurs, Ken Follett signe une préface, donc quelque part, il valide. Et puis, Steven Dupré, apparemment, il a fait des adaptations de Kaamelott. Donc, c'est pas trop surprenant qu'il se retrouve aux manettes parce qu'il a le dessin finalement qui va pour, quoi. Il a déjà ça dans le trait. C'est plutôt assez réussi. Il y a notamment une scène où Tom décrit un petit peu à sa fille qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale et surtout qu'est-ce que c'est de bâtir une cathédrale, qu'est-ce qu'il faut faire, les colonnes, etc., les futures fenêtres. Et il est dans la forêt et les arbres servent un peu de base et à partir de ça, la gamine voit les piliers de la cathédrale. Tout ça, il y a une espèce de surimpression de la cathédrale sur les arbres de la forêt qui est très réussie. Ça, c'est vachement bien trouvé, au point de vue du scénario. Ouais. Donc c'est plutôt réussi. Donc Les Piliers de la Terre, épisode 1, Le Rêveur des Cathédrales, c'est chez Glénat et Robert Laffont, d'après l'œuvre donc de Ken Follett, Didier Alcante au scénario et Steven Dupré au dessin. Il vous reste le temps d'une dernière chronique, Roger.
Alors j'y vais.
Mais efficace, hein.
Ok, efficace. Connaissez-vous Marie Curie?
Oh, oui.
Ah, vous voyez, je dis toujours que je vous pose des questions dures. Combien de prix Nobel elle a eu?
Au moins un.
Deux.
Ah ouais, tu vois,
un avec
au moins
son mari
un.
Et un toute seule. Voilà. Et sa fille
Je sais pas.
Un aussi. Ouais. C'est peut-être la seule famille de France, on a eu, Quatre prix Nobel, vous voyez le boulot. Bref, ça ne rigole pas chez les Curie.
Le polonais, c'est sérieux.
Ah ben, ça bosse, ça bosse. Donc, Marie de Curie, le radium, la mère, comment dirais-je, des appareils de radio sur le front, elle va sauver ainsi de l'amputation des... Oh, on parle de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de soldats qui vont éviter l'amputation grâce aux petites Curie, qu'on appelait ça, les petites bagnoles. Elle avait une adaptation physique et pratique de ses découvertes à travers l'invention des rayons X pour éviter de couper la jambe à un bonhomme pour savoir où étaient les éclats d'obus. Bref, Marie Curie, une grande, grande dame, mais qui va connaître aussi le malheur à un moment donné. Elle va perdre son mari Pierre, écrasé par une espèce de chariot mal branlé qui va l'écrabouiller. Ça va un peu la perturber, d'autant que, du fait d'une passion de Pierre, dont j'ignorais tout, saviez-vous, mon bon Erwan, que Pierre et Marie Curie se sont livrés à des expériences de spiritisme ?
Non, je ne savais pas pour le spiritisme, mais en tout cas, je savais les petites voitures et tout ça, parce qu'en fait, c'est un peu exploité dans la Brigade Chimérique de Serge Lehmann et de Guess au dessin, si je me trompe. Rappelle bien, c'était chez La Talente, où elle était un des personnages et sa fille était un des personnages très importants. Ouais.
Et ce qui est complètement dément, c'est que il y avait pas Pierre et Marie Curie, il y avait des grands savants de l'époque qui étaient présents à ce genre d'expérience, parce que c'est un domaine qui avait toujours fasciné Pierre Curie et son frangin. Et c'est incidemment comme ça, c'est eux qui vont faire rentrer un petit peu Marie Curie dans cet univers, et ils vont rencontrer une célèbre médium voyante qui s'appelait Eusapia Palladino. Eusapia Palladino qui était, soi-disant, capable de soulever des chaises. On se mettait autour d'une table et la table se soulevait. Et ce qu'il y a de dingo, c'est que Pierre et Marie Curie, en compagnie de gens qui sont quand même Bergson, vous voyez, des gens qui sont très, très rationnels par ailleurs, vont assister à ça. Et du coup, Pierre et Marie Curie vont essayer de travailler là-dessus pour étudier de manière rationnelle comment une table peut se lever. Et ça va aller très loin. Ils vont attacher les pieds de la médium à sa chaise pour être sûr que ce ne soit pas elle qui soit en train de soulever la chaise. Il y a des appareils de l'époque, naturellement, qui valent ce qu'ils valent, mais qui ont au moins le mérite d'exister, pour essayer de voir s'il y a des oscillations du sol, s'il y a des tas de choses. Et malheureusement, alors que Pierre Curie, c'est ça qui est complètement dément, Pierre Curie avait décidé de se plonger davantage dans ses études, eh bien, pouf, il va se faire shooter et... Au final, ça va mettre un peu à terme aux expériences rationnelles auxquelles il se livrait. Mais il faut quand même savoir, donc il y avait Henri Bergson qui ont assisté à ces séances, mais il y a des gens comme Paul Langevin. Paul Langevin, c'est pas des dingos, et plein de gens comme ça, tout à fait que la réputation d'être des grands savants rationnels. Bon, à une époque où effectivement, on découvrait tout, quoi. Vous voyez, on découvrait la radioactivité, on découvrait tout. Le moment ou jamais de découvrir autre chose. Et c'est ce que rappelle Monsieur Rodolphe, le scénariste de cette BD, dans une interview, lorsqu'il dit que c'était très injuste de vouloir gommer à tout prix ce passé-là de Marie Curie, comme si ça allait enlever quelque chose aux autres travaux qu'elle avait pu réaliser. Et c'est tout un pan de l'histoire de Marie Curie qui est totalement occulté, et c'est bien dommage. Et M. Rodolphe nous en dira davantage, parce que, si Dieu veut, et ça peut-être que Marie Curie l'aime, quoique si elle était très croyante, Marie Curie, mais en tout cas, si tout va bien, nous devrions le rencontrer lors d'un plateau en semi-direct, voire léger différé, pour le prochain Plumé Passo. En léger différé de Quai des Bulles, le dimanche.
Et ça me permet de dire une dernière fois, si vous voulez gagner peut-être des entrées pour aller à Quai des Bulles, il faudra aller dans la librairie qui tient...
Donc, rue Saint-Hélier.
Voilà, exactement.
Elle est toute neuve à l'intérieur.
Et lui rappeler le nom d'un dessinateur auquel nous avons rendu hommage dans cette émission, et de sa créature, afin de gagner une place. Voilà, les deux noms, une place. C'est ça l'idée.
Yep.
Maximum, deux par personne.
Voilà.
Ouais, comme ça vous emmenez un ami, ok.
Voilà.
Ok. Donc, merci Roger, à la semaine prochaine. Quai des Bulles.
Ah,
Au revoir.
Au revoir. J'ai commandé un lit matrimonial cette fois.